Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
On va commencer avec une citation de C.S. Lewis dans son roman, on va le faire apparaître à l'écran, Screwtape Letter. C'est un démon, un vieux démon qui écrit à un plus jeune démon. Puis il explique au jeune démon comment faire pour avoir le tour avec les hommes. Puis le vieux démon, qui est ce personnage-là ici, instruit le jeune démon à gagner l'expérience pour mieux truquer les hommes. Et donc, il dit que le vieux démon parle au jeune démon, et c'est un roman toujours comme ça, c'est un échange toujours entre les questions du jeune démon qui apprend, puis le vieux démon qui... Et le vieux démon dit, la prospérité tisse les gens dans le monde, au monde. Nous sentons que nous trouvons notre place dans le monde, alors qu'en réalité, c'est le monde qui trouve sa place en nous. Notre réputation grandit, l'accroissement du cercle de nos amis et le sentiment d'importance et la pression grandissante d'un travail agréable bâtissent un sentiment que nous sommes à la maison sur la terre. Et le vieux démon qui dit au jeune démon, et c'est exactement ce que nous voulons. Et donc, aujourd'hui, je vais parler du chrétien dans sa société, ou le chrétien dans la société. Nous, en tant que chrétiens, la Bible dit qu'on est le sel de la terre, puis qu'on est en mission dans le monde, qu'on n'est pas du monde, mais qu'on est dans le monde. Et qu'on a une responsabilité de réconcilier des gens à Dieu. Et Jésus disait, parce qu'il était le roi des Juifs, puis ça n'avait pas l'air qu'il régnait trop, fait qu'il répondait, « Mon royaume n'est pas d'ici-bas, et le chrétien, son royaume, n'est pas d'ici-bas. Sa maison n'est pas ici en bas. On est de passage, puis on a une demeure que Jésus a dit qu'il était parti nous préparer une demeure, puis quand elle va être prête, il va venir nous chercher, puis on va habiter avec lui. Mais vu que notre monde n'est pas d'ici-bas, on a la responsabilité de reconnaître dans le monde ce qui est beau, ce qui est grand et ce qui est vrai dans notre société ou dans notre culture. Mais on a aussi besoin de se poser la question, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est dégradant et qu'est-ce qui est mal dans notre culture. Et donc, c'est pour ça le titre aujourd'hui de « Chrétien dans sa société ». All right. Fait que je suis un livre qui s'appelle « Untamed ». C'est un livre en anglais qui veut dire, c'est sur la formation de disciples. L'auteur s'appelle Alan Hirsch. C'est mon cinquième message à peu près sur la série. J'ai arrêté un petit peu, puis j'ai parlé du Saint-Esprit pendant deux messages, mais c'est quand même relié à la formation de disciples, puis l'importance que le disciple apprenne à découvrir l'Esprit, la troisième personne de la Trinité qui habite en nous. Là, aujourd'hui, je vais parler du chrétien dans sa société, puis comment, en tant que disciple, on a un défi. Il y a une revue en 2008 qui s'appelle le Christian Examiner, un article qui est sorti, le titre de l'article était « Le modèle Willow Creek a échoué à la formation de disciples selon leur leader ». Et lorsque tu lis l'article, tu entends parler d'une église qui s'appelle Willow Creek, qui est à Chicago, une église qui, encore aujourd'hui, est une méga église aux États-Unis. On compte 26 000 personnes un dimanche typique, avec trois rassemblements le dimanche matin. OK? C'est pas nous autres. Donc, nous autres, c'est même pas une des toilettes. T'sais. Le nombre de personnes qu'on est, c'est même pas le nombre d'urinoirs qui est dans la toilette des hommes. Donc, 26 000 personnes, trois services le dimanche. C'est une église qui a été fondée dans les années 70 par un pasteur qui s'appelle Billy Hybels. Ça, c'est une citation qui est très intéressante. Je vais juste faire une petite parenthèse. C'est un philosophe juif moderne qui a dit « L'homme ne peut tirer sa raison d'être de la société elle-même car la société a besoin elle-même d'un sens. » Et donc, c'est important, En tout cas, je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, c'est une église, Billy Eyeball, l'église de Willow Creek. Lee Strobel, qui a écrit un livre, La Défense de Christ, un film qui est sorti sur Netflix récemment. Peut-être vous l'avez vu, là, c'est La Défense du christianisme. Là. Non? Je vous en ai souvent parlé. De toute façon, c'est un enquêteur qui voulait prouver que Dieu n'existait pas. Puis finalement, sa femme s'était convertie, puis ça le choquait bien gros. Fait que là, il est allé faire une enquête, puis finalement, il s'est converti. Puis il est devenu un défenseur de la foi. Lee Strobel, qui était pasteur là dans les années 87 jusqu'à l'an 2000. Donc, pendant une génération, quasiment, l'article disait que les églises chrétiennes ont cessé de mettre l'emphase sur l'étude de la Bible comme un moyen pour faire des disciples, et ils ont compensé par une emphase basée sur les besoins ressentis des chrétiens dans leurs églises, les besoins ressentis et l'apparence de marque. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va attirer les gens du dehors à venir à l'intérieur en étant sur la place publique puis en montrant une image de marque, la publicité littéralement. Et donc, cette génération-là, influencée beaucoup par des églises comme Willow Creek, qui était une des plus grosses églises aux États-Unis, ils ont remplacé la notion pour les chrétiens de succès de grosseur d'église versus profondeur du cœur. Et là, il y avait des spectacles, beaucoup d'animations, beaucoup de masse, et ils attiraient beaucoup de gens. Mais le symbole de succès, c'était une grosse église et non pas la profondeur du cœur. Et donc, l'Église, les différents points, c'était la grosseur de l'Église était rendue le succès et non pas la profondeur du cœur. Deuxièmement, les Églises étaient bâties sur des études démographiques et des études de marketing. Donc, quel genre de personnes qu'on peut attirer, comment on peut les attirer, c'est quoi leurs besoins ressentis, puis comment on peut être, il appelait ça en anglais « seeker sensitive », c'est sensible à ce que les gens cherchent. Et donc, c'est devenu un marketing qui était bâti sur ces études démographiques-là, ces études de marketing, et cette idée de satisfaire le besoin ressenti des gens. Et le mot « pertinence » a pris plus de place que le mot « prédication ». Prédication était remis au dernier plan, et le mot « être pertinent dans le monde » est devenu comme le thème qui a dirigé ces mouvements-là dans les années entre les années 90 et aujourd'hui. C'est ça, cette génération-là. Prévision, stratégie, sensibilité a remplacé les mots péché, salut, sanctification. Et on disait, oublie ce que les gens ont besoin, donne-leur ce qu'ils veulent. Et donc, en créant des églises qui faisaient que les gens avaient ce qu'ils voulaient, et non ce qu'ils avaient besoin, mais ce qu'ils voulaient, eh bien, on les flattait dans le sens du poil, puis on a grossi nos églises comme ça. Et ils ont fait une étude, hein, parce que veux pas, si t'es une église de 26 personnes, t'es aussi 26 000 personnes un dimanche matin, t'es aussi une place où on peut observer des choses. Et donc, on a observé, il y a eu des études qui ont été faites sur l'efficacité de leur méthode, de leur approche. Et la conclusion de cette étude, c'était « nous avons produit des nombres ». Mais nous n'avons pas produit des disciples. Et Abba a dit, nous avons fait une erreur. Et donc, c'est quand même remarquable qu'un leader, quand c'est plus haut possible dans l'organisation, qui était à la source de ce mouvement-là, qui dit, écoute, on s'est planté. Ben là, tu rouvres tes grandes oreilles, puis t'écoutes, tu dis, c'est parce que moi, ça fait longtemps qu'on fait qu'est-ce que tu essaies de faire, là. Qu'est-ce que tu veux dire, on s'est trompé? Il dit, quand les gens devenaient chrétiens, on aurait dû mettre l'emphase sur leur responsabilité de se nourrir eux-mêmes de la Bible entre les rassemblements, prendre des cours bibliques, se former eux-mêmes. Des millions de croyants ont été, il dit aussi, et de développer eux-mêmes les pratiques spirituelles. Des millions de croyants ont été influencés, et la culture chrétienne moderne a été influencée par des gourous comme ça de la croissance d'Église. Et c'est entré massivement dans l'Église parce que l'Église a pris la couleur du monde. C'est-à-dire que il faut se poser la question, est-ce que c'est nous qui évangélisons le monde? Ben non, c'est le monde qui a amené toutes ces manières de faire puis qui nous a évangélisés. Hein? Et Jésus nous dit, on est le sel de la terre, puis le sel, il doit garder sa saveur. Mais quand tu prends saveur du monde qui t'entoure, tu perds ta saveur. Et c'est ce qui est exactement. Et je vais parler de notre société, le chrétien et sa société. Je vais voir comment la société elle a un impact sur nous. Et puis, on va parler un petit peu de la business. On va parler de, justement comment les compagnies investissent des milliards de dollars pour essayer de comprendre et atteindre nos insécurités secrètes, ce qu'on a peur, ce qui nous rend insécure, nos penchants pour en avoir plus, l'avarice, notre désir de statut ou d'être important pour quelqu'un, notre besoin d'être aimé, notre liberté. Il y a des milliards qui sont investis pour ça, pour essayer de connaître et combler ces besoins-là. Martin Luther, qui est un grand réformateur, avait dit que l'homme, quand il se convertit, il faut qu'il y ait trois choses qui se convertissent. Son cœur, sa pensée et son portefeuille. Là, si vous voyez quelqu'un à son baptême, tu sais, il se fait baptiser, tu sais, mais il laisse son argent en dehors de l'eau. Je trouvais ça que l'image était cocasse, mais elle est vraie. Richard Foster, dans son livre « Le monde, le sexe et la puissance », l'argent, le sexe et la puissance, il dit « Jésus parle plus de l'argent qu'aucun autre sujet, à l'exception du royaume. » Dans tous les sujets que Jésus parle le plus, c'est l'argent, puis après, mais avant ça, c'est le royaume. Pourquoi? Parce qu'il veut nous parler que nous, on a un royaume, puis c'est pas le royaume d'ici, c'est un royaume qui est dans les cieux, puis on est en train de préparer ça, cette place-là. Puis qu'ici, c'est pas notre royaume, puis que c'est un royaume de richesse injuste. Alors, il va nous parler souvent de l'argent comme de quelque chose d'injuste dans le monde. Hein? Donc, Jésus sait que l'argent a un pouvoir sur notre imagination et sur nos vies. Jésus, il place l'argent comme le direct compétiteur de Dieu. Lorsqu'il dit qu'on ne peut pas avoir deux dieux, la meilleure chose qu'il utilise, c'est l'argent pour illustrer qu'on ne peut pas servir à la fois mammon, l'argent, ou Dieu. Et que les deux vont entrer en compétition l'un pour l'autre et un ou l'autre va vouloir avoir notre attention, mais on ne pourra pas la donner aux deux. Donc, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à aller discuter concernant l'argent dans le monde. Et Paul, Dieu, au travers de l'apôtre Paul, il dit que une des racines de tout ce qui va mal dans le monde, c'est le désir d'en avoir plus. 1 Timothée 6:10. Il dit dans ce passage-là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont voulu en avoir plus puis se sont perdus loin de la foi. Il y a une diversion dans notre monde où on est diverti et amené en dehors de ce que Dieu a planifié pour nous. Des fois, c'est par peur d'en manquer. Des fois, c'est pour en avoir plus. Mais ça l'a perdu beaucoup de gens, Paul disait dans 1 Timothée 6, 10. Jacques, il traite vraiment durement le frère de notre Seigneur Jésus. Dans Jacques 5, 1 à 5, il traite durement les riches de ce monde, particulièrement ceux qui se sont enrichis sur le dos des autres puis qui n'ont pas été équitables quand ils ont accumulé leur richesse. Un économiste de l'après-guerre, M. Victor Lebeau, a dit « Notre économie productive demande à ce que la consommation soit notre mode de vie, que nous convertissions l'achat en rituel pour trouver notre satisfaction spirituelle et égocentrique dans la consommation. Nous avons besoin que les choses soient consommées, remplacées, jetées à une cadence accélérée. » Ceux qui font des publicités pour les enfants, pour avoir un nouveau jouet. Jusqu'à peut-être il y a 10 ans de ça, il était limité par le CRTC. On n'avait pas le droit de passer des publicités pour les enfants. Mais là, à cette heure, à cause de YouTube, puis le contrôle est perdu. Fait que le jeune, il se plug sur YouTube, il regarde une émission pour enfants, puis à un moment donné, l'émission à coupe, il y a une publicité de jouets pour enfants. Mais là, c'est parce que c'est plus juste québécois, là, c'est... Tu peux plus juste normatiser, tu sais, c'est en dehors de tes murs, là, tu sais. Fait que là, pensez-vous que ceux qui font des jouets pour enfants, ils ont vraiment à cœur que vos enfants aient du plaisir? Pensez-vous que c'est pour ça qu'ils font ça? Pourquoi ils font ça, donc? Oui. Ils font ça parce qu'eux autres, ils veulent s'enrichir, avoir plus. Mais ton enfant, quand tu vas arriver chez Toys R Us, là, il va te faire une crise quand il va arriver bien plus qu'avant parce que là, il a vu la publicité, il a vu qu'est-ce que ça pouvait faire, puis il a vu que c'est ça qui manquait à son bonheur. Pour être épanoui, pour combler le vide que la forme juste de Dieu, comme Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide à la forme de Dieu, et Dieu seul peut le combler. Alors, dans le fond, il y a aussi quelques décennies, les gouvernements, une cinquantaine de gouvernements les plus riches du monde, c'était les gouvernements qui étaient les organisations les plus riches au monde. Mais là, c'est en train de changer. Ce sont des compagnies privées qui sont plus riches que les gouvernements. Ça commence là à dépasser là, depuis à peu près 15-20 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se fait élire? On veut faire plaisir à qui? Aux concitoyens qu'on est supposé de servir ou à ceux qui payent le plus de taxes puis qui veulent faire plus de profit? Donc, on est dans une société qui est dirigée vers une consommation. Puis déjà, on crée un produit, puis on se dit, ça, normalement, il faudrait que ça brise dans un an et demi pour que les gens en aient besoin encore, puis qu'on puisse renouveler la boucle. Donc, tout est fait pour en avoir plus et en consommer plus. Puis, dans le fond, il faut que ça brise, parce que ceux qui font ces imprimantes-là, il faut qu'ils gardent leur job. On a engagé plus de monde, on a voulu en faire plus. Fait qu'il faut que ça brise parce que, dans le fond, il faut donner une sécurité d'emploi à ceux qu'on a engagés pour faire ces imprimantes-là. Et il y a toute une boucle qui tourne comme ça d'un rituel de consommation. Tout est conçu pour rapporter plus de profit aux actionnaires. Toute l'économie est basée là-dessus. Même, on parle, quand vous écoutez une nouvelle, on dirait quasiment que le marché a des émotions. On parle du mood du marché, comment le marché s'est comporté aujourd'hui. On parle vraiment comme du marché comme étant quasiment une divinité qu'on doit suivre et suivre à la journée. Les compagnies sont là et ils disent écoutez, il faut couper tant d'employés parce que il faut atteindre nos objectifs trimestriels pour satisfaire nos actionnaires, pour que les actionnaires en aient plus dans leur poche. Et le monde a dit que l'avarice était bon. Le monde nous dit aujourd'hui que vouloir en avoir plus, c'est une bonne valeur. La Bible nous dit que vouloir en avoir plus, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, là, on arrive à une contre-culture. Là, le chrétien, il arrive à un endroit où ce que il y a maman, puis il y a Dieu, puis il y a son désir à lui d'être un disciple en 2018. Le monde dit l'avarice est bon. Le monde dit que la voie de ton bonheur personnel, c'est la chose qui te manque, que tu dois acquérir. C'est là que le bas blesse parce que l'homme, il tente de trouver un sens et un but en dehors de sa relation avec Dieu. Il y a un vide, et les publicistes le savent qu'il y a un vide dans l'homme. Il y a des insécurités dans le cœur de l'homme, tout ça, et il propose un moyen pour venir satisfaire ce besoin-là, mais l'homme tente de trouver un sens et un but en dehors d'une relation avec Dieu, ce qui le comblerait, son besoin. Un peu comme au pied du mont Sinaï, donne-nous un Dieu qu'on peut toucher. Donne-nous un Dieu qu'on peut voir. Tu sais, puis ils ont demandé à Aaron de faire une statue pour dire c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donne-moi quelque chose de concret qui va combler ma vie. Parlons pas juste d'un Dieu, tu sais, c'est abstrait, tu sais. Donne-moi un nouveau char. Donne-moi une nouvelle maison. Donne-moi quelque chose qui va venir me rassasier. Donne-moi quelque chose que je vais pouvoir toucher. Et donc, c'est une idolâtrie, d'une certaine manière, des temps modernes. On a ça à la portée de main. On peut l'avoir rapidement, avec le crédit aussi. Avant, on a aujourd'hui ce que des rois des générations passées étaient les seuls à pouvoir avoir. Je veux dire, on est dans un confort incroyable. Si tu regardes l'histoire de l'humanité, on est dans un confort incroyable. Jésus nous avertit dans Matthieu 6, il dit, « Ne vous inquiétez point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce passage-là, il y a une emphase que je veux mettre. J'aurais pu mettre l'emphase sur le fait que notre Père s'occupe de nous, mais c'est surtout ici l'emphase est mise sur le fait que les païens cherchent ce qu'ils vont devoir se vêtir, cherchent de quoi ils vont devoir se nourrir. Ils cherchent à combler leurs besoins. Mais le disciple a un père qui prend soin de lui. Et en plus, on n'a pas à chercher notre destinée, le sens de notre vie, parce que justement, on a un Père dans les cieux qui se soucie de nous. Et donc, le message que le monde nous envoie aujourd'hui, et on le questionne, c'est une diversion par la nouveauté. Une diversion par la nouveauté. Et donc, on est distrait d'une vérité sinistre. C'est en couleur que ces messages-là nous viennent, et ils nous viennent de façon abondante. Je veux dire, combien de fois je me fais prendre au piège de vouloir envoyer un message sur Facebook, puis je suis en train de lire le fil d'actualité. Je m'en allais écrire un message à quelqu'un, puis là, me voilà, puis là, je suis là, à un moment donné, après quelques minutes, je suis là, ah, ça c'est intéressant, ah, ça c'est intéressant aussi. Puis là, je suis là, après ça, je dis, qu'est-ce que j'étais venu faire ici? J'étais venu écrire à Juliane, Sarah ou à un autre membre de l'Église pour quelque chose, ou à un collègue d'études. Je dis, hey, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'ai aussi, quand je fais mon message ou quand je travaille sur mes devoirs, je suis toujours diverti par les petits points rouges qui apparaissent dans le coin de mon écran sur l'application qui me dit qu'il y a une nouvelle notification qui vient d'arriver. Plusieurs membres de ceux qui ont travaillé à la conception, mettons Facebook ou les réseaux sociaux, il y a un reportage à TV française qui disait que ces gens-là ont dit tout était fait pour distraire, pour nous distraire toujours, puis créer des pics d'endorphine. Ou l'endorphine, c'est comme le cerveau qui sécrète de la joie par la nouveauté, par des notifications, pour distraire. Justement, puis pour te garder accroché à ces choses-là. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais mes devoirs ou quand je fais un message? Ben là, je regarde les messages que j'ai regardés, puis après ça, je ferme l'application pour être sûr qu'elle ne me met pas des notifications. Un des trucs qu'ils ont dit aussi, c'est, je ne sais pas combien de temps que ça va durer, si je vais le faire, là, mais dans le fond, c'est de mettre ton écran noir et blanc. Toute une couleur, oui. Oui. Cool. Fait que tu as une vie, finalement. Donc, pourquoi qu'on en rit, mais c'est pas drôle d'une certaine manière, c'est que on est distrait d'une vérité sinistre. Et cette vérité dit que sans Dieu, notre vie ne fait pas de sens. Et que la consommation ne nous satisfera pas. Je veux dire, une fois que tu as acquis ce qui manquait à ton plaisir, es-tu comblé? Tu devrais être supposé d'arrêter de chercher qu'est-ce qui comblerait, non? On continue à chercher, on continue à être intéressé. Ah, il manquerait ça aussi, il manquerait ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, t'as-tu ça, toi? » Puis là, tous tes amis l'ont, puis toi, tu ne l'as pas. Tu dis, « Ah, crème, je suis en retard un peu, là, tu sais. » Donc, la société te fait sentir, hein, elle te met dans une anxiété. Il y a la société dans laquelle on vit accentue notre anxiété. Vous allez vous reconnaître dans un ou dans plusieurs de ces schémas-là. Premièrement, sommes-nous aimés? Vivre en rapport avec les opinions des autres. Hein? L'anxiété, justement, d'être aimé, apprécié. Là, ça marche, ça, les likes? Hey, les likes sur Facebook, j'ai mis une photo, il y a 45 personnes qui ont dit qu'ils aimaient. Hey, je suis quelqu'un, je suis apprécié. Hein? Non, c'est pas toi? Moi, quand j'ai 2 ou 3 likes, je dis « Wow, c'est cool! » OK, les attentes. Les publicités nous disent qu'on peut être comblé. Et là, on voit qu'est-ce qui manque, qu'on pourrait avoir. Et là, il y a un sentiment de vide. On devient conscient d'un sentiment de vide. Et la solution qui nous est proposée est une contrefaçon de la vraie raison qui est pas ça. Ce sont des cisternes crevassées qui retiennent pas l'eau. Hein? C'est comme un puits. Il y a de l'eau dedans. Les fentes font partir tout ça. C'est un système, la société, qui est basée sur les mérites. Qui est-ce qu'on récompense dans le monde, ici? Ceux qui réussissent, ça veut dire que ça implique quoi? Ça implique quoi, ça, ceux qui réussissent? Ceux qui ont mis les efforts. Il y en a que c'est des talentueux, doués, qui travaillent pas, puis qu'en plus, ils ont la bonne étoile. Là. Tu sais, ils ont tombé sur la bonne étoile, puis ils ont tout ça en ligne pour eux autres. Donc, on est dans une société où on récompense, comme tu dis, ceux qui ont du succès, qui ont du pouvoir et qui ont un statut social. On va donc le donner à ceux qui ont des habilités, mais tout le monde ne sont pas partis sur le même pied d'égalité. Tout le monde sur la course de la vie, là, on n'est pas tous partis à même ligne, tu sais. Il y en a qui sont bien en arrière. Fait que tu sais, il y en a qui a une super bonne santé, il a été élevé dans un pays, ses parents, ils ont donné un héritage de gens partant, puis etc. Puis ils sont déjà sur une bonne lignée. Ces gens ont bien plus de succès apparent que d'autres, et ça cause l'anxiété parmi tout le monde parce que on n'a pas tous les mêmes chances égales. Hein? Donc, système basé beaucoup sur les mérites. Ceux qui règnent là, c'est ceux qui sont souvent des fronts de diamants, des gens qui pas des gens nécessairement qui ont fait attention aux autres autour, mais c'est des gens qui ont su peut-être des fois même écraser d'autres personnes pour arriver à ces positions-là. Donc, c'est une source d'anxiété. Le jugement. La société amène un jugement veut-veut pas parce que il y a un orgueil en rapport avec ceux qui ont réussi envers ceux qui n'ont pas aussi bien réussi qu'eux. Et les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'on fait dans ce système-là? On réagit puis on se demande, où notre place dans ce monde-là? Et on est content, dans la première image, d'être reconnu par nos semblables comme appartenant comme à notre société, tu sais, puis en étant admiré par notre société, en étant aimé par les gens de notre société. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui a un char plus beau que le nôtre, ou tu sais, qui ont reçu des honneurs plus que nous autres, qu'est-ce qui arrive? Oups. Il arrive une tristesse par rapport à ceux qui se démarquent du reste d'entre nous. Et donc, la société dans laquelle on est amène aussi ce stress-là ou cette anxiété-là. Et finalement, il y a les incontrôlables. Les incontrôlables, c'est, comme je disais tantôt, la chance, l'économie, les circonstances favorables, la personne qui est née sous une bonne étoile. Et ça aussi, ça devient une source d'anxiété parce que tous n'ont pas les mêmes chances égales. Maintenant, à la deuxième partie de mon message, c'est pas mal mon dernier acétate, c'est ici. C'est là qu'on est dans Matthieu au chapitre 5. Jésus, lui, la solution de Jésus, c'est de venir planter un nouveau système, puis c'est de renverser les conventions et les systèmes. Jésus va dire parfois, vous aimez, il y a des gens qui aiment avoir les premières places dans les festins, on les tape d'honneur, mais il dit, moi je vous dis que celui qui est le premier va être le dernier, puis le dernier va être le premier. Fait que Jésus vient renverser, puis vient dire, hey, ceux-là qui n'ont pas de l'air à être en premier, là, je vais leur dire de s'avancer. Ceux qui se sont à sa dernière rangée, je vais leur dire de s'asseoir en avant. Puis ceux qui sont en avant, je vais dire, excuse-moi, tu prends la place d'un autre, va t'asseoir en arrière. Et donc, Jésus renverse les conventions et les systèmes. Et pour faire ça, ce qu'il fait, il vient nous libérer du pouvoir que les choses ont sur nos cœurs. Et il demande aux chrétiens aussi de prendre position pour Dieu et non pour mammon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre position pour Dieu et non pour mammon? Ça veut dire d'aller trouver en Dieu le sens de sa vie, sa sécurité, et pas faire comme le païen qui cherche dans les choses pour être comblé dans le vide de son cœur, mais d'aller à Dieu pour ça. Puis les béatitudes dans Matthieu 5, 3 à 12, puis dans Luc 6, 20 à 23, ce sont quelques courtes phrases que Jésus dit « Heureux l'homme, heureux celui ». Heureux serez-vous. Dans Luc 20, dans Luc 6, il va surtout parler à ses disciples. Il va avoir une masse de gens, puis il va dire, heureux serez-vous. Là, il va parler à ses disciples. Tandis que dans Matthieu 5, il dit à la troisième personne, heureux l'homme qui, sauf au verset 11, il va dire, heureux serez-vous. Là, il va se tourner vers ses disciples, puis il va être un petit peu plus personnel. Le mot pour heureux, c'est le mot makarios. C'est utilisé pour le mot félicité. Hein? À quoi ça vous fait penser la félicité? La félicité? À quoi ça vous fait penser? Si je dis la félicité éternelle? La mort! La mort! Chez les Grecs, dans le fond, on disait d'un mort qui est un bienheureux. Okay? Donc, on va dire la félicité. Il est entré dans la félicité. C'est quelqu'un qui est mort, finalement. C'est aussi parler des dieux qui étaient dignes et supérieurs en force chez les Grecs. Donc, quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui était supérieur en dignité ou en force. C'était pas moral. C'était pas à cause qu'il était récompensé ou quoi que ce soit. C'était juste parce qu'il était supérieur en dignité. Tandis que dans la Bible hébreu, dans l'Ancien Testament, c'était une prospérité matérielle. On disait heureux, un homme heureux, c'est un homme que, tu sais, ses champs prospéraient, il réussissait matériellement. Dans le Nouveau Testament, ça prend une autre ampleur. Le mot makarios, ça veut dire une personne que Dieu satisfait. Non à cause des circonstances favorables, mais parce que Dieu habite son cœur. Donc, il y a cette idée, oui, de bonheur, mais il y a cette idée d'être comblé par Dieu. Alors, on va regarder ces quelques béatitudes-là ensemble. Dans la dernière partie de mon message, c'est qu'on va se concentrer sur Matthieu 5, 3, puis on va lire, tiens, du verset 3 jusqu'au verset 12. Heureux ceux qui reconnaissent, je suis dans la Louis II, 21. Vous allez peut-être pas toujours être pareil, là, parce que sûrement vous êtes avec la seconde. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Premièrement, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, verset 3. Le monde dit, heureux les riches, car ils sont à la tête des royaumes. Jésus dit ici, heureux les pauvres. Pauvre ici, c'est le mot qu'on utilise quand que Jésus parle d'une pauvre veuve qui est allée porter de l'argent puis qu'elle a donné un petit offrande, là. C'est une pauvre veuve. Lazare, un pauvre qui mendiait, là, puis que les riches passaient toujours devant lui. C'est le mot pauvre, c'est ce qui est utilisé. C'est une image graphique de quelqu'un qui démontre qu'une personne est démunie puis qu'elle a besoin d'aide. Pauvre en esprit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Cette personne, elle peut pas être délivrée de son état par ses propres efforts ou par ses mérites. Elle a rien à offrir. C'est comme heureux ceux qui n'ont rien à offrir à Dieu pour leur état spirituel, mais heureux ceux qui sont mendiants et qui acceptent la miséricorde de Dieu. Ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle et avouent qu'ils ne peuvent pas offrir rien à Dieu pour changer leur état. C'est complètement opposé à quelqu'un qui serait riche en esprit. Quelqu'un qui serait riche en esprit puis qui pourrait se vanter d'être, tu sais, de faire quelque chose pour lui-même. Et donc, Jésus, il nous dit, dans son royaume, c'est pas ceux qui ont tassé tout le monde, qui sont rentrés puis qui ont été les plus performants qui vont rentrer. C'est ceux qui vont dire, honnêtement, ils vont regarder en eux puis ils vont reconnaître le péché, l'incapacité de changer quoi que ce soit pour être sauvés puis ils vont dire, j'ai besoin d'un sauveur et ils vont mendier la miséricorde de Dieu. Ces gens-là, Dieu dit, je leur donne mon royaume. Il dit, le royaume des cieux est à eux. C'est un renversement complètement par rapport à ce qu'on voit dans le monde, quand même. Deuxièmement, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ici, affligé veut dire attristé, endeuillé et souvent même accompagné avec les pleurs. C'est une tristesse que tu peux pas contenir. C'est quelque chose qui te fait même pleurer. Il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le mot consoler, c'est composé de deux mots, appeler proche. Si le consolateur, c'est quelqu'un qui est appelé auprès d'eux, consoler, c'est celui qu'on appelle proche. Et il y a cette idée d'être pardonné. Donc, dans le contexte, la tristesse vient de où? La tristesse vient de ce que je suis attristé d'avoir offensé Dieu. Hein? Et donc, d'avoir péché. Et la consolation vient du fait que j'ai été appelé près d'eux. Il m'a appelé près de lui. Il m'a pardonné. Viens ici, je te pardonne. Hein? Et donc, il y a cette idée de tristesse parce que je suis affligé, parce que j'ai une dette envers mon Dieu. Et il y a cette idée de joie parce que je sais que je peux être pardonné en lui. Dans Luc, dans la version seconde, dans le chapitre 6, verset 21, il dit, « Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Il y a le mot « rire » là-dedans. Le rire, c'est aussi une joie qui n'est pas contenue. Des fois, on me conte une joke, puis je ris pas. Mais je ris en dedans. Mais je ris pas assez fort pour que ça sorte. Fait que je dis que je me roule en dedans. Mais les rires, c'est la joie qui n'est pas contenue. La personne était attristée, était pas capable de contenir sa peine à cause du péché, et maintenant elle rit. Là où il y avait de la tristesse, il y a maintenant de la joie pour ceux et celles qui ont été pardonnés. Mais est-ce que le monde, présentement, a de la peine parce qu'il a offensé son Dieu? Pourquoi le monde a de la peine? Il n'y a pas de la peine parce qu'il a offensé son Dieu. Il y a de la peine parce qu'il n'a pas rempli son vide par plein de choses. Mais dans Psaume 32:1, c'est écrit qu'il y a un homme qui est heureux, c'est celui à qui la transgression est remise et le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. La joie du monde présentement, c'est d'avoir du plaisir, peu importe si c'est bien ou mal. Il était un temps où ce qu'il y avait le bien qui existait puis le mal aussi. Il était un temps où ce que le bien c'était le bien pour toi, c'était le mal pour un autre. Puis là, on s'en fout. On s'en fout de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est qu'est-ce que tu as le goût. Qu'est-ce que tu as le goût? Peu importe. Tu veux-tu être un arbre? On va inventer un nouveau sexe. Un arbre. Identité de genre. On va faire une toilette des hommes, une toilette des femmes, une toilette des arbres. OK? C'est peu importe. C'est pas à nous de juger si c'est bien ou si c'est mal. On s'en fout à la limite que ce soit bien. C'est quoi que tu veux, toi? Ben, le monde, il veut avoir du plaisir, peu importe si c'est bien ou si c'est mal, mais l'homme, le disciple de Jésus-Christ, dans sa société, il sait qu'il y a des choses en lui qui attristent Dieu. Et quand il attriste Dieu, il s'attriste lui-même parce que le Saint-Esprit est attristé au-dedans de lui. Il est pas dans sa coche, il est pas dans sa joie, il est pas bien. Et donc, celui qui a de la tristesse va aussi être consolé quand que Dieu lui dit, viens près de moi, je te pardonne. Hein, qui le met dans une communion avec lui. Donc, un homme, un disciple heureux, il sait que la jouissance du péché dure un temps, mais que la joie que Dieu réserve à ses enfants dans son royaume est éternelle. Quand il a péché, il y a de la tristesse, et il soupire après le pardon et trouve consolation. Heureux celui qui est attristé, car il sera consolé. Hein? À Moïse, c'est écrit qu'il n'a pas voulu avoir la jouissance du péché pendant un moment. Et c'est écrit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a préféré aller avec son peuple pour délivrer son peuple de l'Égypte. Quand était le temps entre avoir une position dans le monde, avoir une promotion dans le monde, avoir de l'importance dans le monde, puis faire le ministère, il a choisi le ministère. Parce qu'il savait que c'est pas juste moi que ça influence aussi d'autres. Et donc, puisque j'ai un impact sur les autres, je penserai pas juste à, comme dans le monde, c'est chacun pour soi. Là, je pense aux autres. Puis là, ben, je suis un disciple de Jésus-Christ comme ça. Donc, un disciple ne pense pas à une position dans le monde si cela l'éloigne de ce qu'il doit faire. Moïse a fait ce choix-là. Prochaine béatitude. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Le mot doux, c'est un mot qui était associé à des objets ou à des animaux, mais ça l'a augmenté avec la présence de notre Seigneur. Le mot était utilisé pour un vent, un doux vent, une lumière douce, tu sais, souvent jaune ou tamisée, une lumière douce, un son doux. On disait d'un animal, d'un cheval, par exemple, qui était doux, et ça voulait dire qu'il était malléable, qu'il était, bridable. Mais bibliquement, c'est une qualité envers Dieu, c'est d'accepter son rang et laisser Dieu être notre chef et être malléable comme un cheval, ça serait une bonne image, c'est d'être docile, d'être malléable dans les mains de notre supérieur, de celui qui nous domine, si on peut dire, ou qui, le mot dominer est peut-être fort, là, mais qui est notre chef. Donc, c'est quelqu'un qui accepte la manière de Dieu de gérer avec lui, qui se place sous Dieu. Il reconnaît comme Dieu, comme ayant un droit sur sa vie de lui dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis de pas juste faire qu'est-ce que lui veut, mais de faire ce que son Père céleste veut. Donc, il vit dans une soumission à Dieu, et ce Dieu-là a des droits sur sa vie, et à cause de ça, Dieu dit, puisque tu reconnais que j'ai des droits sur ta vie, moi, je vais te faire régner sur la terre. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Dieu dit, garde ton bonheur, c'est que tu as accepté que je sois roi sur ta vie, sois le roi avec moi sur la terre. Donc, il va y avoir des villes, il va y avoir des royaumes. Tu sais, il n'y aura pas juste en Israël qu'il va y avoir des gens qui vont régner. C'est partout sur la terre, l'Église va être là. Puis, il va y avoir des dignités. C'est comme si tu disais, moi, là, ceux qui sont doux, qui veulent m'obéir, qui veulent marcher selon ma parole, c'est toutes des valeurs qui sont cachées, c'est toutes des valeurs qui sont intéressantes. C'est souvent des choses qu'on a, on vit à la maison, en privé, qu'on ne vit pas devant les hommes. Tu disais, t'as voulu que je règne sur toi? T'as voulu faire ma volonté? Ben, tu peux prendre l'autorité déléguée. Je vais te donner de l'autorité déléguée plus tard. Heureux l'homme qui accepte la seigneurie du Seigneur. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ben, le mot avoir faim, c'est ça, c'est être affamé. Le contexte, quand que les foules étaient affamées, puis Jésus les a nourris, là, le mot affamé, c'est ce mot-là qui est utilisé. C'est un mot qui a été utilisé aussi pour un animal qui était dans un enclos, puis qui avait faim. Là, c'est ça. Ici, le contexte, c'est d'avoir faim de la justice, c'est de mener une vie juste. Mener une vie. La soif et la faim de la justice, quand tu lis tout le sermon sur la montagne, là, c'est le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, tu t'aperçois que c'est une justice de suivre la loi de Moïse. Nous, on n'est pas tenus d'obéir à la loi de Moïse. Par contre, on est tenus de marcher selon les enseignements du Nouveau Testament, par exemple. Donc, c'est un principe qui s'applique quand même. Donc, il dit, heureux ceux qui ont faim de marcher dans une vie juste. Puis c'est comme si Dieu dit, ils seront rassasiés. T'as faim de quoi? T'as faim de marcher dans une vie qui est juste, tu vas être rassasié. Autrement dit, Dieu va te donner une vie qui est juste. Donc, une personne qui a faim de faire ce qui est correct aux yeux de Dieu, Dieu il va dire, je vais te donner ça. Dans Apocalypse 20, 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça, c'est Jean, tout de suite après avoir décrit tous les fléaux de l'Apocalypse. Il dit, dans le fond, c'est quasiment comme une scie, c'est une bénédiction. Tu sais, tu veux être juste, tu veux marcher dans la sanctification, tu veux être consacré pour ton Dieu, sois encore plus consacré. Tu veux vivre dans ton péché, tu veux vivre loin de Dieu, tu veux rien savoir de l'Évangile, continue de même. Tu sais, fais ce que tu veux. Sois rassasié de ce que tu veux manger, finalement. Et donc, Dieu voit que ça vous fait plaisir d'obéir à Dieu, de marcher dans ses voies, et Dieu, il vous bénit pour que vous puissiez encore plus marcher dans ça. Septième verset. Heureux ceux qui font preuve de bon, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Dans la Louis II 21, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Bon, ici, c'est, ou miséricordieux, ça veut dire voir des besoins des gens et les servir. Dieu, il voit des qualités de gens qui veulent prendre soin les uns des autres, puis il dit, tu as usé de bonté envers quelqu'un, maintenant je vais mettre quelqu'un sur ton chemin pour user de bonté envers toi. Toi, quand que les gens ont des besoins, puis que tu peux, tu sais, le prochain Jésus, dans la parabole du bon samaritain, le prochain, c'est celui qui a un besoin, puis que tu peux légitimement servir. On peut pas nourrir toute la planète, on peut pas tout remplir les besoins de tout le monde, mais ceux dont on a le pouvoir de faire du bien, ce sont nos prochains. Que ce soit ceux qui nous ont fait du mal dans le passé ou notre meilleur ami. Le prochain, c'est celui qui a un besoin que je peux légitimement combler. Puis que moi, ça ne m'expose pas à la détresse. Donc, ceux qui auront eu de la bonté pour les gens, Dieu il dit qu'ils vont, Dieu va leur donner sa bonté. Sûrement, c'est rare que c'est Dieu lui-même qui le fait. Là, fait qu'il va utiliser un intermédiaire, une autre personne. Proverbe 18, 25 dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon, et avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Dieu qui dit, tu sais quoi? T'es heureux parce que t'es bon. T'es bon envers les gens, je vais être bon envers toi. Marie, lorsqu'elle a eu son cantique, elle a dit, la bonté de l'Éternel s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La promesse ici, c'est que l'homme heureux des béatitudes, c'est l'homme qui s'est montré bon pour une personne et que les autres vont être bons envers lui. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu et vivre. C'est un thème dans l'Ancien Testament partout. Hein? C'est un thème que tu pouvais pas dans ton corps mortel voir Dieu et vivre. Quand que Dieu a apparu à Moïse, mais c'est la gloire de l'Éternel. Hein? Quand Moïse voyait Dieu, il voyait pas Dieu, il voyait la gloire de l'Éternel. Dans Exode 3:20, la voix qu'il entendait dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir me voir et vivre. » En Job 19, au verset 26, Job il dit « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Il va avoir un temps où ce que le croyant va plus avoir de corps, puis il va le voir. Souvent, Jean, dans son évangile et dans ses épîtres, dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui pêche n'a pas vu Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Dans Jean, il dit « Mais celui qui a vu Dieu l'a fait connaître. » Il dit que Jésus-Christ, lui, a vu Dieu et il l'a fait connaître. Puis il va dire que celui qui connaît Dieu ne pêche pas. Il va parler de connaître Dieu, puis que ça va produire quelque chose d'avoir vu Dieu. Ça va produire un cœur qui est pur. Donc, Job était un croyant dans l'Ancien Testament et il savait que tant qu'il habitait dans son corps de chair, il pouvait pas voir Dieu, mais qu'un jour, Dieu va se lever puis il va le voir quand sa chair ne sera plus là. Dans le contexte ici, c'est important de comprendre que Jésus, dans Matthieu 5, 6 et 7, il veut montrer que les Juifs sont pas si justes que ça. Si tu regardes une femme puis tu t'imagines avec elle, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur, 5:27, je pense. Si tu t'en vas en char puis que tu t'en vas te promener, moi je me suis enregistré la semaine passée, en plus je parlais au téléphone puis je savais pas que je parlais au téléphone puis j'ai perdu les pédales au volant, tu sais, j'étais comme ah non, puis en plus j'avais un témoin, c'était bon pour ma repentance. Hey, en plus, je pouvais dire, ça m'arrive presque jamais de dire des gros mots comme ça. Puis là, ben, en plus, mon frère qui m'a entendu, tu sais. Mais la Bible a dit que si tu te fâches puis que tu traites des noms, ton prochain, t'es le tueur de cette personne-là. Fait que, qu'est-ce que Jésus fait dans le serment sur la montagne? Il montre que la justice est pas tant la justice que ça. Le problème, c'est que des fois, on se convainc qu'on a une justice extérieure. Puis Jésus dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Puis il va dire, c'est de l'abondance du cœur que viennent les paroles mauvaises, les méchancetés. Alors, on vivait dans l'impression qu'on était pur parce qu'on faisait des rituels, parce qu'on faisait des prières, parce qu'on allait à l'église, parce qu'on faisait ce qu'un chrétien fait ou une personne religieuse faisait. Mais à l'intérieur, le cœur avait pas été traité. Et l'Évangile, c'est exactement ce que Jésus fait. Il vient changer le cœur. Et dans Actes, il dit, c'est Paul qui dit, et dans Actes 15, il dit que Dieu n'a fait aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs. Et il dit, au verset 9, il a purifié nos cœurs par la foi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est bientôt à Noël, on va chanter. Il est né le divin enfant, jouez au bois. Puis là, on va chanter, il veut nos cœurs, il les attend. Il veut en faire la conquête, il veut nos cœurs, il les attend. Qu'il soit à lui dès maintenant. On va chanter ça bientôt à Noël. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset-là? C'est qu'il y a une intervention du cœur qui doit être faite pour qu'un homme puisse voir Dieu. Et l'œuvre de Dieu, ça va être de purifier nos cœurs pour qu'on puisse avoir un service qui est pur aussi. Dans Hébreux 9, 14. Dans le monde, aujourd'hui, on se croit pur. On se croit correct. Proverbe 30, verset 12 dit, une race, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières sont élevées. Et la plus grande tristesse de ça dans notre société, c'est que l'homme ne verra pas Dieu. Il y a eu un reportage dans Le Devoir qui est sorti hier sur une grosse église à Montréal qui tente d'atteindre la jeunesse. Puis tout ce que les gens écrivent dans les commentaires concernant les chrétiens, puis comment nous, Québécois, on pense qu'on l'a, nous autres, tu sais, l'affaire, puis que, tu sais, les gens qui sont dans les religions, c'est des arriérés, puis je disais ça, puis je me disais, pauvre de nous, pareil, on parle de ce qu'on connaît pas. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières sont élevées. Ce qui est triste, c'est qu'ils ne verront pas Dieu. L'homme, s'il n'y a pas une intervention qui vient dans son cœur pour être purifié de sa souillure, il ne verra pas Dieu. Bienheureux celui qui a purifié son cœur en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le mot ici, c'est pas juste quelqu'un qui prend deux parties qui sont en chicane puis qui fait le conciliateur entre les deux, mais quelqu'un qui a lui-même un cœur paisible puis qui amène la paix. C'est quelqu'un qui fait pas le trouble-fête dans un groupe de personnes. C'est quelqu'un qui n'attise pas les conflits ni ne répète les fautes de ses frères et sœurs ou de ses amis en but de faire des discordes. C'est quelqu'un qui est miséricordieux. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. Et il est l'image de son Père dans les cieux, qui s'est fait connaître à Moïse en disant « L'Éternel passera devant toi et s'écriera « L'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Ce Dieu-là reconnaît pour ses fils et ses filles ceux qui amènent la paix et non la division parmi les amis. Proverbe 6:16, il y a 6 choses qu'est l'Éternel, il y en a 7 qui en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dieu, il est miséricordieux, il amène la paix, il amène le pardon, puis il appelle ses fils et ses filles. Ceux qui procurent la paix, il les appelle ses fils et ses filles. Celui qui procure la paix, Dieu, il est fier de lui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre comme tournure. Est-ce qu'il va dire, « Hey, au tribunal de Christ, tu as été un paisible, toi. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il nous appelle ses fils et ses filles, ou ils seront appelés fils et filles de Dieu. Je ne sais pas. Mais une chose, on est heureux parce que Dieu nous appelle comme ça. Et d'une certaine manière, il y a un honneur que Dieu va dire, « Hey, sais-tu quoi? C'est comme un peacemaker, cette personne-là, pour le corps de Christ. Un peacemaker. Un pacemaker. Hey, c'est cool, j'avais pas pensé avant. Il a aidé le corps de Christ, il était un pacemaker. Ah, cool. Ça fait de bien. Heureux celui qui procure la paix. Dans la fierté de Dieu, Dieu les appelle ses fils. Et la dernière béatitude qu'on veut voir ce matin, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là, c'est là, ici, je vous disais, il va tourner ça en vous, là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal. Hey, ça, c'est loin de se faire une place dans le monde, d'être honoré, puis d'avoir, tu sais, tout le pouvoir, puis le respect de tous nos concitoyens, là. Ils sont tous morts persécutés. Il y en a un qui a réussi à survivre. Ils sont tous morts martyrisés. Fait que là, ils se tournent vers eux, puis ils disent, écoutez, les gars, écoutez, les filles. On va dire des choses qui sont pas vraies à votre sujet à cause de Jésus. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est pas facile à dire, mais. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Autrement dit, le chrétien disciple dans sa société, il doit être patient parce que le bonheur ne vient pas aussi instantané que d'avoir pesé sur un bouton ou d'avoir acheté un objet pour remplir le vide de son cœur. Mais il croit que ça passe, oui, ça va passer par être incompris parce que je marche avec Jésus, parce que je veux faire les choses à la manière de Jésus. Je veux être un disciple de Jésus. Je vais être ridiculisé. On va dire des choses fausses. On va monter des dossiers, des choses fausses qui vont être dites à mon sujet. Puis, mais c'est pas fini. Le chrétien, disciple, dans sa société, il sait qu'il est pas ici pour se faire un nom, qu'il va peut-être perdre en compétition, même dans le marché du travail ou dans un emploi où il va avoir des choses injustes qui vont se passer à son sujet. Mais il est capable de dire, OK, mon bonheur, moi, là, c'est pas juste qu'est-ce que je peux avoir maintenant. C'est mon Dieu qui, un jour, il va avoir une récompense dans les cieux parce que lui n'a pas été aveugle à ça. Là, ça donne le goût d'être un disciple. Il dit, OK, parfait, on continue. Donc, si je veux marcher pieusement et suivre la parole de Dieu, je vais être persécuté. On va vivre des montagnes russes ensemble et chacun pour soi. Ça implique aussi qu'on ne sera pas populaire, puis on va même être méprisé, mais que ça vaut la peine de suivre Dieu, parce que Dieu dit ici que le royaume de cieux est à ceux, à ces disciples-là qui n'ont pas eu peur d'être persécutés pour lui. Donc, en bas, tu as de l'air méprisable, tu as de l'air de la risée de ta famille ou de tes amis, hein, tu as de l'air de la risée. Mais pour Dieu, tu es un dignitaire du royaume à venir. Tu fais partie de ceux qui vont trôner avec lui. Fait que c'est comme s'il y a vraiment cette idée, là, Jésus dit, hey, vous avez appris la gloire, la richesse, l'honneur, tout d'une certaine manière dans le monde. Mais moi, je vous montre, hey, c'est pas ça pour tout. Ça va être comme ça que ça va se passer. Les doux, les ceux qui sont soumis, les ceux qui amènent la paix. Ceux qui ont soif et faim de justice, etc. On va finir avec les mots de notre Seigneur Jésus. C'est le verset 13. Puis je trouve que ça boucle bien avec le début de mon message, qui est justement, le chrétien doit se poser la question, je vais revenir complètement au début. Le chrétien doit retrouver qu'est-ce qui est beau dans sa société, mais il doit aussi reconnaître qu'est-ce qui est mal puis être différent. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va le lui rendre? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Puis qu'on se rappelle de ce petit conseil-là qui a été donné ici, que les gens finissent par penser qu'ils sont dans le monde et qu'ils appartiennent à ce monde parce qu'ils transigent avec ce monde. Ils ont des honneurs dans le monde, ils ont de l'amour dans le monde, ils ont des positions dans le monde, ils ont de l'argent dans le monde, puis ils vont finir par croire qu'ils font partie du monde. Puis le vieux démon de dire aux jeunes démons, c'est ça qu'on veut leur faire croire. Non, nous, on n'est pas du monde. Amen? OK. Père, merci pour cette parole, Seigneur Dieu, que tu as donnée dans Matthieu puis dans Luc. Pour nous rappeler, Seigneur Dieu, que le bonheur est pas si momentané que ça, puis il est pas si toujours tangible que ça tout de suite. Mais Seigneur, que même ce qui a été fait dans le secret comme un acte de bonté envers quelqu'un, quand nous, on va avoir besoin d'un acte de bonté envers nous, tu vas envoyer quelqu'un. Les qualités, Seigneur, de soumission, Seigneur Dieu, de se soumettre à Dieu puis de vouloir l'obéir, c'est pas visible. Ça ne sera pas reconnu tout de suite. Mais un jour, tu vas dire, « Hey, tu sais quoi, tu as voulu régner, tu as voulu que je règne avec toi? Ben règne donc avec moi. » Je te remercie, Seigneur, qu'on peut prendre position. Je te prie que chacun ici puisse prendre position pour être le disciple que tu veux qu'il devienne dans ce monde. S'il y a quelqu'un qui nous écoute sur Internet, que tu entends ce message puis tu dis, « Je sais même pas moi si je vais être là dans ce royaume-là éternel. » Ben, on a vu que heureux est le pauvre en esprit. C'est celui qui arrive devant Dieu puis dit, hey, je peux pas me sauver moi-même. J'ai rien. J'ai pas de budget pour me sauver. Et Dieu dit, ben, Jésus-Christ est mort pour toi et il a payé la dette de tes péchés pour que tu sois pas obligé d'être puni. Il a fait cela à ta place. Tu n'as qu'à accepter qu'il a fait cela pour toi. Et ça va être déposé dans ton compte. Heureux les pauvres en esprit. Si tu veux-tu accepter que tu ne peux pas te sauver toi-même et que tu as besoin de Jésus pour te sauver. Oui, fais cette prière avec nous. Répétez-la avec moi. Les gens vont la faire en geste de courtoisie, mais c'est une prière qu'on n'a pas besoin de faire plusieurs fois. On la fait une seule fois, mais on peut vous accompagner aujourd'hui puis la faire avec vous. c'est de reconnaître en priant cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour être puni pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts pour me préparer une place. Seigneur Jésus, sois mon sauveur et mon roi. Amen. Je prie que si c'est ce que vous avez fait comme prière aujourd'hui, vous vous joignez dans une église qui enseigne la Bible, pas juste qui fait des chansons puis qui vous font sentir quasiment comme des dieux, tellement que vous êtes exaltés par ces chants-là. Non, non, je parle qui vont vous enseigner la Bible, qui vont vous donner le goût d'en apprendre plus sur qui est Jésus, ce qu'il a fait pour vous. Et je prie que vous puissiez continuer dans la parole de Dieu. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.